Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, septième de notre saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Vous êtes notre invité et comme c'est devenu une forte tradition dans cette émission, nous vous retrouverons tout à l'heure en troisième partie qui sera d'ailleurs entièrement consacrée à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Mais je rappelle aussi qu'au cours de nos sujets, de notre sommaire, si vous le souhaitez, si vous avez un éclairage à apporter, ne vous en privez pas. Ce sommaire, eh bien Michel, les contre-regards de la semaine t'ont inspiré pétition et journalisme.
Oui.
Tu nous diras ce que ça veut dire un petit peu plus clairement tout à l'heure. Après quoi, centre-ville et... Pour toi, le centre-ville de Narbonne, en l'occurrence, est en quête d'un vrai plan d'aménagement. C'est une suite, puisque tu as déjà évoqué d'ailleurs ce problème-là. Et la deuxième partie sera consacrée entièrement à Macron national et ce que tu appelles les Macron Boys à Narbonne. Tu nous diras exactement ce que tu entends par là. Alors, pétition et journalisme.
Oui, Jean-Claude, nos auditeurs qui lisent la presse locale, ce qui n'est pas forcément évident, hein, mais en tout cas dans la presse locale, pour les auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont pas pu remarquer, dans le Midi Libre et dans l'Indépendant de cette semaine, hein, que les pétitionnaires regroupés autour de celles qui animent hein, cette affaire-là qui s'appelle Virginie Birgonneau, à savoir les pétitionnaires qui ne veulent pas entendre parler d'une salle multimodale qui s'installerait, ou plutôt qui serait érigée dans l'emprise du parc de l'amitié ou des sports, ou des sports de l'amitié, bon, peu importe. Voilà, donc cette initiative et ces pétitionnaires ont fait l'objet de deux grands articles, d'un grand article dans l'Indépendant et d'un édito dans le Midi Libre. Alors,
bon, c'est la totale.
C'est la totale.
Bonne couverture.
Ça veut dire quand même que cette affaire commence à faire parler d'elle, si je puis dire, alors qu'on essaie depuis quelque temps de là, ben, évidemment, de faire en sorte qu'on n'en parle pas trop, encore que... C'est vrai que l'initiative du maire d'avoir à poser cet immense panneau dans lequel, sans qu'il précise l'heure cependant, hein, il nous annonce qu'il inaugurera cette salle des sports, cette salle multimodale le
18 décembre 2018. J'ai bien noté, précisément sur mon agenda.
Donc d'une certaine manière, il avait déjà amorcé, si je puis dire, la contre-offensive et la communication dont je vais parler et qui m'a particulièrement choqué. Je parle non pas de la pétition, mais dont je suis signataire, je dois le préciser pour être tout à fait honnête.
Soyons honnêtes.
Hein? Donc, Monsieur Juan, qui est l'éditorialiste de Midi Libre, se fend d'un éditorial, si je puis dire, dans lequel, en faisant référence à un œil averti de la politique locale, visiblement un œil quand même ou borgne, myope ou envers, parce bon, que ça, il annonce le chiffre.
Ça c'est toi qui le dis.
Attends, je le dis, mais pourquoi? Parce qu'il annonce le chiffre en faisant cette référence à cet œil de verre ou cet œil myope que 800 signataires seulement avaient signé cette pétition dans le style 800. Qu'est-ce que c'est? C'est ridicule au regard de la population locale. Sauf que s'il avait additionné ce monsieur comme je l'ai fait après m'être renseigné auprès de la dame qui anime cette pétition, il se serait rendu compte qu'en additionnant les signataires sur Internet et les signataires sur papier, c'était pas 800, c'était 2000.
Bon, hein? Donc, alors, 2000 plus celle de Michel Santos, ça fait 2001,
n'oublions pas. Il y a quand même une marge. Donc voilà, c'était simplement pour signaler à l'auditeur que quelquefois il arrivait et que l'on se référa à des yeux ou à des yeux avertis et qui ne voyaient strictement rien. Et que le minimum qu'on puisse attendre d'un journaliste quand même, c'est de vérifier à la source directement son information.
Il y a des choses qui échappent. Oui.
Deuxième, alors, dans l'Indépendant, article beaucoup plus touffu hein, d'une dame hein, que je ne connais pas non plus. Article une page entière qui n'est pas forcément en soi totalement négative, hein, puisqu'on y voit l'arbre des vœux sur lequel les signataires et autres apposent leurs petits vœux dans le style et il faut maintenir cet espace vert pour nos enfants, etc. Puis un article assez conséquent sur les pétitions, etc. Sauf que elle attaque son article par cette phrase qui m'a fait bondir au plafond, je la cite. Hein. Apprendre à dire non, c'est l'une des étapes fondamentales du développement de l'enfant. est un passage obligé de l'épanouissement personnel selon les spécialistes du comportement. Je lis ça. Je dis, ma femme, qu'est-ce que c'est que cet œil de lynx qui apparemment a fait des études, hein, elle a lu Freud ou Lacan, sans aucun doute, à l'évidence, quoi. À l'évidence.
Faudrait le demander.
Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, en fait, qui signe cette pétition, je serais victime d'un complexe d'Oedipe mal résolu et dont Didier Mouly serait la figure symbolique que je voudrais tuer. Enfin, c'est une absurdité totale. Alors, je sais bien que j'exagère, hein, et que, bon, je ne.
Oui, mais tu es là pour ça, Michel.
Ce propos. Mais quand même, je dois dire que sur le coup, je me suis dit, là, on n'a pas affaire à des journalistes, on a ce que l'on disait dans mon temps, affaire à des éplucheurs d'écrevisses. C'est-à-dire un ensemble de niaiseries qui, franchement, ne sont pas à la hauteur ni de l'enjeu, ni des lecteurs qui lisent ce genre de papier.
Bon, alors, la psychanalyse vue par Michel Santo, la voici. Un mot là-dessus, notre invité Alain Perea.
Tout simplement, moi. Ce qui m'inspire à ce billet que j'avais lu et qui vient d'être résumé, c'est aussi le fait que aujourd'hui, je pense que les médias traditionnels, mais aussi les partis politiques tels qu'ils ont fonctionné pendant de nombreuses années, sont très embêtés avec tous ces mouvements sur les réseaux sociaux qui leur échappent et qui échappent à toutes les règles traditionnelles de ce qu'ils ont toujours connu et ce pourquoi ils sont faits. Et donc là, ce sont des réactions, mais on le voit aussi sur des politiques beaucoup plus complexes, telles que Uber et autres, où les choses s'organisent sans la politique, sans l'administration, sans les médias. Et donc, c'est des pages ouvertes très intéressantes, et j'y reviendrai tout à l'heure.
Oui, ça, nul doute, dans une troisième partie, et notamment sur le phénomène Macron, nous reviendrons dessus. Deuxième sujet, Michel, le centre-ville est, selon toi, un besoin criant d'aménagement, de plan d'aménagement,
oui.
Durable.
Alors, pourquoi cette chronique? Parce que là aussi, hein, se tenait à Carcassonne, c'était en début de semaine, je crois, ou en fin de semaine dernière, mais enfin, un peu importe, hein, une réunion dans le cadre de la Biennale du patrimoine urbain qui a été lancée par la région. Alors Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, j'insiste sur Pyrénées, Méditerranée, on sait le peu de goût que j'ai pour l'Occitanie. Je dis au plan politique et contemporain, non pas pour l'Occitanie historique, je précise.
Rappel des faits de l'opinion de
donc il y avait là toute une série d'intervenants, dont notamment Madame Granic, qui était adjointe en charge de l'urbanisme à la ville de Narbonne, et dans l'article qui a rendu compte de cette manifestation fort intéressant au demeurant, hein, mais qui toujours pareil quoi, une page entière mais pas beaucoup d'informations en fait. En réalité, moi je n'en ai retenu qu'une.
Alors, au fait.
Et c'est une remarque de nommer Olivier Poisson, pas le Poisson des primaires, hein, Olivier Poisson, hein, qui est conservateur général du patrimoine.
Et qui sait nager aussi.
Qui sait, bon, nager en tout cas dans les eaux du patrimoine, en fait, hein, incontestablement, qui, dans son intervention, a bien résumé la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je le cite. Les urbanistes anglais nous admirent, paraît-il, pour la richesse de notre patrimoine urbain, mais s'interrogent sur son déclin. C'est l'évidence même. Il nous demande quel est votre plan. Et là, en effet, est la question. Là, en effet, la question. Prenons l'exemple de Narbonne. A-t-il jamais existé un plan d'ensemble d'aménagement urbain? Un plan d'ensemble d'aménagement qui inclut, fait la dimension, habitat, commerce, espace public, plan de circulation, et qui prenne comme point d'appui principal dans l'orientation stratégique de ce plan, la sauvegarde et la valorisation de ces grands objets patrimoniaux. Je parle de Narbonne, le palais d'Archevêque, la cathédrale Saint-Just, Saint-Paul, la Morguée, le canal de la Robine, pour les principaux d'entre eux. La réponse est dans la question, la mienne en tout cas, non. Alors, qu'on s'entende bien, je veux dire un plan qui ne peut être réalisé que sur plusieurs mandats. On ne peut pas réaliser un plan de cette nature sur un seul mandat.
Et c'est là sans doute que le bât blesse d'ailleurs.
Mais bien sûr, parce que évidemment sur plusieurs mandats, compte tenu des aléas même liés à la vie politique, ça suppose un consensus large et profond, j'allais dire, qui associe pratiquement l'ensemble des acteurs sociaux et politiques de la ville en question, y compris les acteurs qui sont dans l'opposition à une majorité à un moment donné. Or, je reviens là-dessus, cette question. La réponse est non, il n'a jamais existé, à ma connaissance en tout cas, hein, de plan de cette nature qui répondent à ce genre de questions. Hein. Alors, prenons des exemples. A-t-on jamais pensé, en fait, discuté, en fait, mis sur la table un plan d'ensemble de ce style, qui par exemple pose la question de savoir si oui ou non, on doit ou pas sortir en fait, l'hôtel de ville du Palais des Archevêques, je parle du personnel en fait, et sa fonction,
oui, l'administration.
Pour les installer ailleurs, et doter effectivement, et donner en fait, à cet ensemble sa vocation culturelle, je dirais, naturelle.
En faire une sorte de palais des papes d'Avignon.
Exactement, avec tout ce que ça implique derrière, comme mise en valeur de cet objet, au plan, ce qui suppose un plan de circulation adapté en fait, à ce type de vocation, hein, des aménagements particuliers, en fait, des muséaux, etc., etc. Comme ça, ce nom. Deuxième exemple, hein, qui n'est pas tout à fait vrai, encore, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a été pensé en, en cours de mandat, mais il n'a pas fait l'objet d'un plan de la nature que j'évoquais précédemment. A-t-on jamais pensé effectivement à se dire, mais enfin, quand même, on a aujourd'hui combien 3, 4 et bientôt 4 objets patrimoniaux en fait, conséquents, la médiathèque, le palais des archevêques, le Muréna, le théâtre et le canal de la Robine, a-t-on jamais pensé effectivement sur cet axe-là, hein, à le prendre en compte dans toute sa dimension structurante et à établir effectivement un axe de circulation et de valorisation qui prenne cet ensemble-là en question, avec là aussi, hein, tous les plans de circulation, en fait, habitat, que cela implique. Là aussi, non. En tout cas, c'est ma réponse. Hein. Donc, je prétends que tant qu'on n'aura pas effectivement pris le temps, hein, parce que ça demande du temps à établir, effectivement, dans les conditions de consensus que j'évoquais tout à l'heure. Ce genre de dimension, en fait, pour m'établir un plan de cette nature-là, on ne s'en sortira pas. Hein. Et le seul, j'ajoute en plus, pour terminer ma chronique, hein, que le seul moyen pour sortir en plus d'une culture de l'entre-soi avec typiquement narbonnaise, ce genre d'élaboration stratégique ne peut pas, enfin, ne peut pas sortir de ses conservatismes et des intérêts locaux les plus divers si on ne fait pas intervenir des opérateurs extérieurs, effectivement, à la cité en question. Je pense notamment au duopole, en fait, ou en tout cas au duo, à l'ensemble, architecte, urbaniste et designer.
Voilà. On marque une pause et on retrouvera le sujet avec un avis d'Alain Perea tout de suite après.